Bonjour Simon, bonjour à tous. Haïti attend la formation de son conseil présidentiel de transition aujourd'hui en principe, mais de nouvelles négociations politiques commenceront ensuite pour désigner celui qui le dirigera. Notre invité aujourd'hui, le grand écrivain haïtien Gary Victor, dans un instant. Vous entendrez aussi dans notre dossier du jour la colère des habitants de Houston au Texas aux États-Unis face à la pollution de l'industrie pétrochimique. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer, Tessa Groman, vous nous parlerez d'une artiste martiniquaise victime de revenge porn.
Oui, Perle Lama, chanteuse de zouk et de R&B, a vu des photos d'elle nue fuitées sur Internet. Le responsable est son ex-petite amie et elle a pris la parole publiquement pour dénoncer cette pratique.
À tout à l'heure.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
On devrait connaître aujourd'hui formellement la composition du Conseil présidentiel de transition en Haïti. Les débats se sont prolongés au sein de certains mouvements, alors que la situation sécuritaire, elle, se dégrade de jour en jour et que le quotidien des Haïtiens est de plus en plus difficile. Nous recevons aujourd'hui pour en parler le célèbre écrivain Gary Victor. Bonjour.
Et bonjour.
Vous êtes l'auteur le plus lu en Haïti et vous êtes en ligne des environs de Port-au-Prince. Comment vit-on aujourd'hui dans la capitale haïtienne ?
Bon, dans la capitale haïtienne, on vit avec beaucoup d'angoisse, tout ce qui se passe. Les déplacements sont difficiles, l'approvisionnement est difficile, l'environnement sécuritaire est extrêmement compliqué. De toute manière, nous avons l'habitude de cette situation, mais il faut dire quand même que c'est la première fois que nous faisons face à une telle dégradation au niveau sécuritaire. Il faut dire aussi qu'il n'y a pratiquement plus d'autorité, il n'y a pas de président, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de premier ministre. Bref, on peut résumer la situation en disant que c'est une population abandonnée à elle-même. Il y a plus de 50 000 personnes dans des abris provisoires qui ont investi des lycées, des espaces publics parce qu'ils ont été obligés de fuir leur quartier, envahis par les gangs. C'est un peu l'enfer dans certaines zones de Port-au-Prince. Il faut dire qu'il y a certaines zones de Port-au-Prince qui sont beaucoup plus affectées que d'autres. Mais dans l'ensemble, pour vous résumer la situation, c'est une population totalement livrée à elle-même. Des politiciens qui semblent ne pas se soucier du tout de ce que vivent cette population. Pour ces politiciens, il semble que le temps n'a aucune importance. Ils sont là à se battre pour le pouvoir. Et le temps passe, et plus le temps passe, et plus la situation de la population s'empire.
Alors, puisque vous nous parlez des discussions politiques, il existe une piste pour tenter de sortir de l'impasse. C'est le fameux Conseil présidentiel de transition, négocié sous pression internationale. Qu'est-ce que vous en attendez ?
Vous savez, nous, en Haïti, on n'attend pas grand-chose. Bon, il semble que les politiciens, la communauté internationale, veulent imposer à Haïti un véritable calvaire, un véritable chemin de croix. Parce que 7 membres dans un conseil présidentiel, en Haïti, même un cartel de 3 membres dans une mairie ne peut pas fonctionner. Donc, 7 membres pour un conseil présidentiel. Alors, nous, on se dit, est-ce qu'il faudra 7 cartels présidentiels, 7 appareils de sécurité pour chacun de ses membres, 7 salaires différents, 7 privilèges différents. Et on est vraiment très dubitatif devant cette situation qui, pour nous, n'a pas un sens, sauf peut-être pour distribuer des postes à des politiciens qui, de toute manière, savent qu'ils n'auront aucune chance aux élections. Là, c'est une solution pratiquement imposée de l'extérieur avec l'aval de politiciens qui n'ont absolument aucun crédit à l'intérieur de ce pays. Donc, pour vous dire, et on se demande même l'appareil sécurité en Haïti, et est-ce que, par exemple, on parle par exemple de la garde présidentielle, bon, est-ce qu'elle va accepter une situation pareille? Parce que, bon, on ne sait vraiment pas. Donc, je pense que c'est une aventure qui risque de foirer bien vite. Bon, on n'espère pas, de toute manière, avec la situation qu'on vit, on espère que ça marche, mais on n'y croit pas trop.
Et quel est le rôle de la communauté internationale, alors, dans tout ça? Parce qu'à vous entendre, on a l'impression qu'elle reproduit des erreurs déjà commises.
Oui, l'impression qu'on a, c'est que la communauté internationale fait exprès de reproduire les mêmes erreurs. Et parce que je me demande très bien, après tout le temps passé en Haïti, comment se fait-il que cette communauté internationale ne comprenne pas exactement ce qui se passe? Les Nations Unies ont quand même fait plus de 10 ans en Haïti. Elle n'a absolument rien foutu. Les bandits ont prospéré, le trafic d'hommes a prospéré, le trafic de drogue a prospéré. Et une fois que les Nations Unies ont quitté le territoire haïtien, tout a explosé. Donc, pour vous dire qu'on n'a absolument pas confiance en la communauté internationale, on n'a pas l'impression du tout que cette communauté est notre amie, que cette communauté veut vraiment aider ce pays. Parce que, écoutez, elle favorise une solution totalement aberrante, alors que constitutionnellement, on pourrait aller très vite avec une solution qui est déjà prévue. La solution la plus logique aurait été qu'on connaisse ça un juge de la Cour de cassation. Bon, bien sûr, il y a un tas de pêcheurs en eau trouble qui vous disent « Oui, on ne peut pas organiser des élections dans un climat d'insécurité pareil. » Mais écoutez, une fois qu'on programme les élections, dans la programmation des élections, il y a justement la résolution du problème de la sécurité. Il faut nommer un appareil électoral, un conseil électoral, un bureau électoral qui a de larges pouvoirs. Et pendant qu'on prépare ces élections, on essaie de résoudre la question sécuritaire. On a vu certains pays, on a organisé des élections, même en période de guerre, même quand une partie du territoire ne pouvait pas voter.
Alors, à propos de cette situation sécuritaire, justement, Haïti attend aussi le déploiement de troupes internationales qui sont censées aider la police à lutter contre les gangs. On sent le Kenya de plus en plus réticent, pays qui avait accepté de prendre la tête de cette mission. Voici ce qu'écrit aujourd'hui le quotidien Le Nouvelliste. Il dit « La situation avance, on ignore simplement dans quelle direction. Comme souvent en Haïti, rien n'est clair, mais on espère le meilleur. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Gary Victor ?
Oui, je pense qu'on avance totalement vers le flou, parce que même quand on parle d'une force étrangère pour Haïti, mais avant tout, il faudrait qu'à l'intérieur même du pays, qu'il y ait une volonté politique pour résoudre la question sécuritaire. On a des unités sécuritaires en Haïti qui sont capables de s'opposer aux gangs. Mais le seul problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de volonté politique. Il y a même eu une complicité visible entre le gouvernement en place et ses gangs. Donc, ça veut dire comment peut-on lutter contre les gangs quand le pouvoir politique est infesté par la délinquance. C'est le premier problème. On a refusé à ces forces de sécurité la latitude d'attaquer les gangs. En plusieurs fois, on a eu même la possibilité, par exemple, d'éliminer un gang, un chef de gang. Et puis au dernier moment, il y a eu un appel du pouvoir politique. On exige aux policiers d'arrêter l'action. Donc vous savez, alors c'est très flou. Vous savez, il y a tellement de délinquance. Le pouvoir politique en Haïti est devenu tellement délinquant. Il faudra même faire attention, et même quand on enverrait une force de sécurité étrangère en Haïti, elle serait sous le commandement de qui ? Vous savez, donc c'est pour cela d'ailleurs que les Nations Unies ont totalement échoué en Haïti, parce que cette force a été un petit peu cooptée par la corruption et par la délinquance en Haïti.
Je vous remercie beaucoup, Gary Victor, d'avoir été en ligne avec nous pour parler de l'incertitude qui plane toujours sur l'avenir politique et sécuritaire d'Haïti. Merci.
Merci beaucoup à vous tous.
On parlait avec vous des difficultés quotidiennes des habitants de la capitale et de ses environs il y a quelques minutes. Difficultés à s'alimenter, à trouver des hébergements convenables. Les médicaments manquent aussi. Les circuits de fabrication sont perturbés dans un pays qui ne produit que 30% de ses besoins au niveau pharmaceutique. Je vous propose d'écouter Pierre-Hugues Saint-Jean. Il est le président de l'Association des pharmaciens d'Haïti. Il redoute une pénurie dans le pays, pénurie qui menaçait déjà avant que la situation ne se dégrade.
Quand nous regardons le circuit de distribution de médicaments en Haïti, vous voyez les laboratoires, ensuite les agences pharmaceutiques, les dépôts de distribution, les pharmacies pour arriver jusqu'aux patients. Par rapport à la situation de guerre dans laquelle sévit le pays, tous ces canaux-là sont affectés. Les trois laboratoires pharmaceutiques que nous avons en Haïti ne peuvent fonctionner normalement. D'ailleurs, il y en a un qui est déjà fermé en attendant que la situation se normalise. Donc les deux autres fonctionnent au ralenti. Pour les agences pharmaceutiques et les dépôts de distribution, il y en a des agences qui sont déjà vandalisées. Nous avons des pharmacies qui sont déjà pillées. dans cette situation-là, donc pouvoir approvisionner ou réapprovisionner les pharmacies, c'est extrêmement difficile.
Les canaux de production et de distribution sont donc bloqués, mais est-ce que vous recevez de l'aide de l'extérieur?
70% de nos besoins en intrants pharmaceutiques et médicaux viennent de l'étranger. Et à cause que les ports sont bloqués, les aéroports sont fermés, il est impossible de continuer à se réapprovisionner.
Et qui sont les premières personnes touchées par ces pénuries?
Imaginons une situation là où il y a des tirs un peu partout. Il peut y avoir des plaies par balle. Le fait qu'il y a des problèmes de disponibilité d'intrants, donc c'est un peu compliqué pour gérer ces situations d'urgence. Maintenant, voyons les patients qui ont des pathologies chroniques. Normalement, il y a des médicaments qu'ils reçoivent tout le temps. Mais dans cette situation-là, où les pharmacies communautaires et les pharmacies d'hôpitaux ont des difficultés pour se réapprovisionner, donc les gens qui ont des pathologies chroniques auront des difficultés pour pouvoir continuer à suivre leur traitement. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est un peu ça l'état de santé de la population.
Le président de l'Association des pharmaciens d'Haïti.
Radio France International.
L'actualité du continent, c'est aussi ce nouveau rebondissement au Texas. La justice fédérale a de nouveau suspendu une loi controversée voulue par le très conservateur gouverneur républicain. Loi qui criminalise les entrées illégales d'exilés venus du Mexique voisin. L'immigration donc s'impose bien comme un thème de campagne majeur pour les républicains avant la présidentielle de novembre. On reste aux États-Unis pour notre dossier du jour à Houston, au Texas. Numéro 1 en matière de production d'énergie fossile et le port le plus important du pays, avec des conséquences évidemment très lourdes en termes de pollution et en termes de santé pour les habitants. C'est un reportage de notre correspondant Thomas Arms.
Ce mardi soir, la salle communale est remplie d'habitants excédés de Channel View. Face à eux, un représentant du port de Houston et un homme d'église.
Trop, c'est trop. Il y a trop de gens qui meurent autour de nous.
Le port et son chenal représentent 275 millions de tonnes de fret par an, mais c'est aussi là que sont installées des industries de transformation pétrochimique, non loin de leur zone d'extraction au Texas et à proximité de la zone d'exportation. Ces usines fabriquent du plastique, des textiles, mais aussi des produits pharmaceutiques, des solvants, des peintures. La liste est longue. Et les accidents industriels sont récurrents.
Quand les réservoirs de l'entreprise ITC ont pris feu et explosé en mars 2019, on a eu la fumée et les cendres qui tombaient directement dans nos jardins. On a assisté au nettoyage de matériel après un accident de produits toxiques dans le jardin public, là où les enfants jouent. On a les chiffres du recensement qui prouvent que oui, nous sommes un foyer de cancer. We are a
cancer cluster. Caroline Stone organise les habitants du chenal de Houston au sein de l'organisation CHIC, un acronyme de Channel View Health and Improvement Coalition. Community
members. Des membres de la communauté signalent les incidents, et surtout les plus graves, comme quand il y a des fuites de produits toxiques. Mais personne ne se déplace. Et quand on appelle l'entité de contrôle de la pollution, en disant que ça arrive fréquemment et qu'on le signale à chaque fois, leur réponse « Mais c'est la première fois qu'on nous signale cela. » C'est comme si nos appels et nos signalements allaient directement à la poubelle.
Un rapport des ONG Amnesty International et Human Rights Watch pointe que l'espérance de vie moyenne des populations vivant le long du chenal maritime de Houston est jusqu'à 20 ans inférieure à celle des quartiers à majorité blanche, situés à seulement 25 km de là. Et c'est ce que rapporte Benjamin Broadway, un habitant quasiment aveugle, venu à la Réunion en fauteuil roulant.
Ma grand-mère cultivait ici du maïs, des poivrons, des pastèques. Ça peut être la raison de mon diabète, de mes allergies ou de mon arthrite. Mais on ne saura jamais. Les industriels ne font pas ça dans les quartiers huppés, parce que dans ces communautés, il y a des avocats pour les défendre. Ils vont là où sont installées les populations noires, latinos, indigènes, qui ne savent pas quoi faire, parce qu'ils sont tellement occupés à essayer de nourrir la famille qu'ils n'ont pas le temps de s'intéresser aux lois ni de chercher à savoir ce qui est légal ou non.
Selon le rapport des deux ONG, de nombreuses usines affichent un bilan de sécurité épouvantable. Elles bafouent les règles et provoquent des fuites répétées de produits chimiques nocifs sans écoper de véritables sanctions ou conséquences. Pourtant, il existe bien un organisme pour surveiller les émissions toxiques, la Commission texane pour la qualité environnementale, TCEQ en anglais. Mais en raison de la forte concentration des installations, il est difficile de déterminer précisément quelle usine est à l'origine d'une fuite. Enfin, comme l'explique David Leffer de Public Health Watch, qui a mené une longue enquête sur les émissions de benzène dans la région du chenal de Houston, les autorités texanes sont peu amènes quand il s'agit de s'en prendre à l'industrie pétrolière et ses dérivés.
La commission texane pour la qualité environnementale a documenté les hauts niveaux de benzène à Channelview en 2005 et 2006, il y a quasiment 20 ans. Ils avaient détecté des niveaux de benzène parmi les plus élevés de tous les États-Unis, mais l'État texan a décidé d'être encore plus permissif. Là où seuls 25 microgrammes de benzène par kilo de polluants étaient autorisés, aujourd'hui, la limite est passée à 180 microgrammes par kilo. Les législateurs ont multiplié par 7 le droit de polluer, malgré les preuves de forte présence de benzène. Avec l'expansion de la fracturation hydraulique, la commission environnementale a réduit ses contrôles.
Pour les habitants, resterait la solution de partir. Mais la plupart n'en ont plus les moyens. Caroline Stone a acheté sa maison en 1988 et aujourd'hui, à cause de toutes ces pollutions, sa maison n'a plus aucune valeur, alors impossible d'aller acheter ou louer ailleurs. Thomas Arms, Houston, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, bonjour Tessa Gromane.
Bonjour Anne, bonjour à tous et à toutes.
La chanteuse martiniquaise Perle Lama dénonce publiquement le revenge porn.
Elle en a été elle-même victime. Son ex-petite amie a diffusé sur Internet des photos d'elle nue, prises à son insu. Perle Lama a porté plainte, s'est exprimée ouvertement sur cette affaire sur les réseaux sociaux. Une démarche que la chanteuse de R&B assume.
Je n'avais pas envie d'être inondée de messages à droite à gauche pour me dire qu'on me voit nue. Et ben j'ai mis mon bouclier, on va dire, en disant que tout simplement, j'ai rencontré un homme qui n'a pas supporté que je le quitte très certainement, que la relation se termine et que pour se venger, il essaye de m'humilier en posant ma nudité. Je trouve ça alarmant que de se dire aujourd'hui, un portable, c'est une menace dans un couple. Quand on est dans l'intimité de quelqu'un, qu'on partage sa nudité, qu'on partage sa sexualité, je veux dire, ça, c'est quelque chose de privé. Donc, qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça vient faire sur les réseaux sociaux, sur un site porno, quoi?
Perle Lama, jointe par la rédaction de Martinique La Première. Toujours en Martinique, deux agences France Travail ont été destinataires d'une enveloppe dans laquelle se trouvait une balle de revolver. Le dernier envoi date de quelques jours. Les précisions de Claude Gracien.
Courant février, l'agence France Travail du Lamantin reçoit une enveloppe. À l'intérieur, une balle. C'est la deuxième fois que ça arrive. Il y a tout juste un an, en mars de l'année dernière, c'est l'agence France Travail de Schœlcher qui découvre là aussi une balle dans une lettre qui est adressée à cette antenne Expo Emploi. Dans les deux cas, face à ces situations graves, la direction dépose des plaintes. Côté sécurité, des protocoles existent déjà, notamment en ce qui concerne les procédures d'alerte. Mais certains points font l'objet d'une attention particulière, notamment l'accueil des usagers. Un agent est présent pour, au cas où, désamorcer les situations conflictuelles. En général, elles se règlent assez vite, dit-on à France Travail, où la vigilance reste de mise.
En Guadeloupe, un syndicat de police dénonce une violence inédite à Pointe-à-Pitre. Drogue, trafic d'armes, criminalité. La ville aurait besoin d'une meilleure politique de sécurité et surtout de plus de policiers. C'est ce que réclame Patrick Abdallah du syndicat Unité SGP Police FO.
Il faut mettre des moyens efficaces pour lutter contre ce fléau. En l'occurrence, mettre des moyens pour effectuer la surveillance des côtes en y mettant des bateaux et pourquoi pas des points de surveillance. Il faudrait également aussi renforcer les effectifs sur le terrain. Il n'y a pas de secret pour lutter contre cette délinquance. Il faut impérativement augmenter le volume des effectifs. Les procédures sont lourdes et les fonctionnaires de police, malgré leur bonne volonté, croulent sur les dossiers et ils font des heures pas possibles pour résoudre les enquêtes.
Propos recueillis par Christelle Martial. Et puis la Guadeloupe accueille aujourd'hui la 7e édition du festival Nouveau Regard, festival de films caribéens. Au programme, 36 œuvres de jeunes réalisateurs de Cuba, de la Jamaïque, de Curaçao, d'Haïti, de la Guadeloupe et de la Martinique. Le palmarès, car il y en a un, sera révélé dimanche soir.
Merci Tessa Gromane et merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain à partir de 13h10, temps universel. Et puis vous le savez, vous pouvez aussi nous réécouter sur l'application RFI Pure Radio, nous suivre aussi sur les réseaux sociaux.
Écoutez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.